C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer dans une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité, avec un focus de ce qui se fait pour chacun d'entre eux dans la région de Paris. Sommes-nous plus ouverts en été aux découvertes culturelles et sociales? N'y a-t-il pas quelque chose de différent qui se passe? Ne sentez-vous pas une ouverture plus grande à ce qui nous entoure? Ces questions qui me taraudent me font penser qu'il y a un temps pour tout. Une forme de saisonnalité, des émotions. Quand vient l'été et surtout la fin de l'été, les choses semblent prendre une tournure nostalgique, décuplant nos sens. L'art, alors, impacte différemment. C'est donc le parfait moment pour exploiter cette émotivité et se pencher sur des découvertes qui peuvent nous bouleverser. Et ça tombe bien car dans C'est dans l'art, nous vous présentons les dernières sorties, les dernières œuvres pour chaque art et nous réagissons. De quoi avoir une vue globale sur ce qui se passe et pouvoir faire vos prochains choix en fonction de vos envies, en fonction de votre fin d'été. Chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez déjà fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieuses, curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission d'actualité culturelle qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris et c'est sur Radio Campus Paris. Et on démarre cette heure maintenant.
Une heure au musée et même s'il n'est pas encore minuit, nous y sommes avec Diane. Nous plongeons avec Christophe dans le dernier roman graphique de Jean-Louis Trippe. Nous sommes entre le clair et l'obscur avec Isnel et ça tombe bien vu l'heure à laquelle cette émission est diffusée. Nous sommes à la Bibliothèque Nationale de France avec Léa pour une expérience ultra virtuelle au sujet du point zéro de la France et je ne vous en dis pas plus. Nous suivons enfin Chloé, place Colette, mais pas seulement, notamment pour parler du bourgeois gentilhomme de Molière. Encore de quoi être inspiré, peu importe l'art, ce qui tombe bien parce que c'est le but de cette émission. C'est dans l'art sur le 93.9 FM en Ile-de-France, sur le canal Campus en DAB+, et partout et tout le temps sur radiocampusparis.org. Amis curieuses, amis curieux, top chrono pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
Pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Chloé.
Salut.
Diane.
Salut.
Isnel.
Salut.
Et Jeanne.
Bonsoir.
Prête avec leur chronique, Christophe nous a laissé une chronique enregistrée. Bien sûr, vous avez entendu Léa, fidèle au poste.
Hello.
À la technique dans la régie de Radio Campus Paris, il y a Léa. Et je suis Fabrice. Salut à toutes les six. Prêt pour ce soir?
Bah oui, toujours.
Bah super. Une préférence? Ouh là là, Léa, elle a une petite préférence, on verra ce qu'il va donner.
J'attends de voir comment ça va se dérouler.
T'es sûr?
Ouais.
Une heure dédiée à l'art qui commence dès à présent.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Allez, commençons sans plus attendre cette émission par le tour d'actualité culturelle avec toi, Jeanne. On commence avec des sculptures familières.
Oui, on l'avait évoqué à ce même micro il y a quelques mois. Le travail de la sculptrice Prune Nourry est exposé jusqu'au 21 septembre au musée d'art et d'histoire Paul-Éluard à Saint-Denis. Depuis plusieurs années, Prune Nourry interroge la place des femmes dans la société à travers la symbolique de la Terre. Vénus est son nouveau projet, inspiré par la diversité à la fois archéologique et culturelle du territoire de Saint-Denis et qui s'inscrit dans le cadre de la commande qui lui a été passée pour être installée dans la nouvelle gare de Saint-Denis-Pleyel. Son travail est donc à voir jusqu'au 21 septembre à Saint-Denis.
Et on adore tous la radio autour de cette table, mais sait-on vraiment d'où elle vient et comment elle fonctionne?
Bah moi, j'y connais pas grand-chose, mais je vais y remédier grâce à la première édition d'une série d'expositions qui sera intitulée « Machine arrière à la Cité des sciences ». Au programme de chacune d'elles, un voyage temporel et une immersion sonore originale autour d'un objet ayant marqué notre quotidien. La première, donc, est consacrée aux radiotransistors et nous plonge dans l'histoire fascinante de la radio en tant que technique et en tant qu'objet, en décryptant comment elle a entraîné une véritable révolution sonore, c'est à découvrir jusqu'au 2 novembre.
Et sur scène, des femmes à célébrer dans un milieu plutôt dominé par les hommes.
Les dames du rail, c'est un spectacle musical imaginé par Méziane Azaïch pour mettre en lumière les trajectoires de vie singulières des pionnières du rail, un genre musical libre porté à sa naissance par des femmes qui bouleversent l'ordre établi dans une Algérie sous occupation coloniale française. Sur scène, deux chanteuses et un orchestre rendent hommage à ces femmes et à la diversité des musiques du monde arabe. C'est à voir au Cabaret Sauvage du 5 au 28 septembre.
Et depuis la Villette, on traverse tout Paris, direction Boulogne-Billancourt.
Rendez-vous au festival Monde en commun au nouveau musée Albert Kahn, de Boulogne. Au début des années 1900, Albert Kahn, banquier et philanthrope, part faire le tour du monde et en rapporte des milliers de photographies de peuples et de paysages rencontrés au fil de son voyage. Il a alors pour but de constituer les archives de la planète. Plus de 110 ans plus tard, le festival Monde en commun poursuit cet élan en invitant une dizaine de photographes contemporains à travailler à un inventaire visuel du monde. Leur travail est exposé dans les jardins du musée jusqu'au 7 septembre.
Et qui dit rentrée culturelle, dit rentrée littéraire.
Oui, et comme chaque année, les étals des librairies déborderont de nouveautés puisque 484 nouveaux romans paraîtront entre août et octobre. Avec toujours le même casse-tête pour les éditeurs, comment capitaliser sur les auteurs et autrices bien installés, tout en faisant de la place à de nouvelles voix, aux primo-romanciers et romancières qui attisent la curiosité du lectorat, le tout dans un marché de moins en moins dynamique. Il est encore un peu tôt pour vous dire quels seront les titres qui marqueront cette rentrée, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Une rentrée littéraire, mais aussi une rentrée au cinéma.
Parmi les quelques sorties attendues de cette rentrée, citons Sirat, l'épopée désertique et techno de Olivier Lachet, qui a remporté le prix du jury à Cannes en salle le 10 septembre. Toujours le 10 septembre, dans un tout autre genre, L'intérêt d'Adam met en scène Léa Drucker et Anna-Martha Bartholomei dans un drame intime face à face entre mère et médecin sur fond d'hôpital en crise. Côté adaptation littéraire, Connemara du romancier à succès Nicolas Mathieu arrive sur grand écran avec Mélanie Thierry et Bastien Bouillon dans les rôles principaux. Et pour finir, un thriller psychologique japonais en salle le 3 septembre, Exit 8 de Genki Kawamura. Le pitch est simple, un homme coincé dans un couloir de métro doit trouver la sortie numéro 8, bienvenue dans l'enfer de Châtelet-Léal.
Et pour finir, on glisse doucement vers l'automne avec quelques sorties musicales.
Oui, les jours vont rallonger déjà, mais on sera paré avec quelques nouveautés à mettre dans nos oreilles. La douceur de Patrick Watson avec son nouvel album Uh-Oh, le retour de Feu Chatterton et leur joie communicative, ou encore Lola Young, dont on a hâte de découvrir l'univers après le succès planétaire de Messi.
Merci Jeanne pour ce point actu, il y a beaucoup à découvrir. Allez, plongeons dans les sujets du jour sans plus attendre.
Architecture,
sculpture, musique, c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Chloé, avec toi, nous sommes à la Comédie Française, Place Colette, site Richelieu ce soir, voir Le Bourgeois Gentilhomme, une des pièces de théâtre écrites par Molière.
Oui, alors à l'heure où je vous parle, la pièce n'est malheureusement plus à l'affiche de la Comédie Française qui commence déjà à préparer sa nouvelle saison. Est-ce qu'on peut dire que ma chronique est anachronique ? C'est une blague que j'aurais adoré faire. Hein. Malheureusement, c'est une blague de Fabrice, grand humoriste, adepte de jeux de mots apparemment. Hello. Mais c'est pas parce que la pièce n'est plus à l'affiche que je vais me gêner pour vous en parler. Alors tout d'abord, laissez-moi vous raconter dans quelles circonstances je me suis retrouvée à aller voir cette pièce de Molière, extrêmement connue, que j'avais étudiée en cours et qui, pour être tout à fait honnête, me disait pas particulièrement. J'ai plusieurs amis qui ont tout le temps des super plans à me proposer et j'étais allée voir, grâce à l'une d'entre elles, un autre spectacle à la Comédie Française, lors d'une séance spéciale qu'on appelle la couturière. C'est l'avant-dernière répétition avant la première représentation. Alors c'est une occasion en or d'être au plus près du travail des comédiens, de les voir peaufiner leurs interprétations. La pièce s'appelait Une mouette, c'était une réécriture de La mouette de Tchekhov, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais en fait j'avais vraiment adoré cette pièce et je me suis dit j'ai envie de la faire découvrir à un copain à moi qui est pas un grand fan de théâtre mais qui avait bien envie de découvrir la Comédie Française. Je sais pas si vous êtes déjà allé à la Comédie Française mais c'est quand même un lieu assez dingue. Construit en 1790, elle accueille depuis plus de deux siècles des spectacles fous entre lustres flamboyant, dorures, moulures, fauteuils chatoyants, cette institution parisienne vaut le détour. Et en plus, c'est tout à fait possible de trouver des places vraiment pas très chères. En tant qu'étudiant, en tant que moins de 26 ans, ou même minima sociaux, si comme moi, vous touchez le chômage. Vous pouvez vous en tirer avec des très bonnes places à 16 euros. Et c'est donc ce que j'avais décidé de faire, de prendre deux places pour aller voir Une mouette avec ce copain. Ravi, on va à la Comédie Française, mais vous allez le voir, ça se passe jamais vraiment comme prévu les trucs avec moi. Au moment de passer les contrôles de billets, pas de bol, ce sont pas les bons billets, je me suis juste trompée de date. Mais ça n'a pas nous laissé abattre pour si peu, on a couru au guichet pour nous faire engueuler par une employée de la Comédie Française, mais qui s'occupait de vendre les derniers tickets pour le spectacle. Bon à savoir, il est possible de se procurer des billets à prix cassé quelques instants avant le début de la représentation. Et sans savoir ce que nous allions voir, nous sommes engouffrés dans la salle sombre et les trois coups ont retenti.
Que d'aventure, dis donc. Mais de quoi parle la pièce exactement ?
Alors, la pièce est assez simple. Elle ressemble un peu à toutes les pièces de Molière. C'est un riche bourgeois qui est tourné en ridicule alors qu'il cherche à imiter le comportement et le genre de vie des nobles. Ce bourgeois, c'est Monsieur Jourdain, marié à Madame Jourdain. Ils ont une fille, Lucie, et une servante, Nicole. Ce sont donc de riches bourgeois, comme je l'ai dit, mais qui ne sont pas nobles. Et c'est ça qui complexe atrocement Monsieur Jourdain, qui entend bien acquérir les manières de ce qu'il appelle les gens de qualité. Pour cela, il fait venir un maître de musique, un maître à danser, un maître de philosophie, un maître d'armes. Et pour avoir les aspects de ces gens de qualité, il se fait même confectionner un vêtement par un maître tailleur. Évidemment, tous ces professeurs sont là uniquement pour estorquer de l'argent à Monsieur Jourdain, qui est naïf et prétentieux. Car si Monsieur Jourdain désire à tout prix acquérir tous ses attributs, c'est pour séduire une femme, évidemment pas la sienne, mais une noble dame, veuve et sans scrupules, qui s'appelle Dorimène. Cette femme, c'est une intrigante qui, elle aussi, a vocation à voler de l'argent à Monsieur Jourdain. Dorimène manigance avec un ami à elle qui s'appelle Dorande, qui lui aussi vole de l'argent à notre héros. Ça va, vous suivez? Promis, c'est bientôt fini, parce qu'à ça s'ajoute Cléonte, jeune homme amoureux de Lucie, et le valet de Cléonte qui s'appelle Coviel, qui lui est promis à la servante Nicole. Vous avez un peu le tableau, toute la pièce tourne en ridicule Monsieur Jourdain, qui essaye de devenir élégant, de bien s'exprimer, de danser. C'est un échec, évidemment, tout le monde se moque de lui, sous le chapeau, mais est bien content de lui voler de l'argent. S'ajoute à ça une entourloupe de mariage, Monsieur Jourdain ne veut pas donner sa fille à Cléonte, homme qui n'est pas assez noble pour lui, tout le monde va s'affairer pour le tromper. La pièce se finit bien pour tout le monde, sauf pour Monsieur Jourdain, qui se retrouve ruiné, trahi par tous ceux qu'il croyait aimer. Mais ce qui fait l'intérêt pour moi de cette pièce, c'est ce qui, je trouve, a été le plus réussi à la Comédie française, c'est qu'en fait, c'est une comédie ballet à l'origine, un genre extrêmement populaire à l'époque de Molière, mais qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Il faut imaginer qu'à l'époque de la première de la pièce, c'était le compositeur Lully, un des musiciens les plus célèbres de son temps, qui avait composé la musique des ballets à l'œuvre dans la pièce. Et dans la version de la Comédie française, ils ont réussi cette prouesse, c'est-à-dire à mêler musique ancienne et musique plus récente pour nous plonger dans un univers sans époque, à la fois baroque et futuriste. Les acteurs dansent, les acteurs chantent, les décors sont magnifiques, extrêmement chargés. Il y a plein de petits trucs un peu rigolos, des objets qui volent, des objets qui lévitent au-dessus du sol. Franchement, c'est pas ennuyé une seconde. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la Comédie française a une boutique dans laquelle ils vendent tous les DVD de toutes leurs pièces. Donc franchement, n'hésitez pas.
C'est Place Colette ?
Oui. D'accord. C'est dans le site de la Comédie française, au rez-de-chaussée. Il y a une petite boutique.
Donc, Place Colette, dans le premier arrondissement, arrêt Palais Royal, Musée du Louvre. Dans l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez, Isnel ?
J'avais déjà étudié aussi au collège Le Bourgeois Gentilhomme, et c'est vrai que dit comme ça, ça ne me disait rien, mais ça m'a bien donné envie d'aller. J'y suis allée seulement une seule fois à la Comédie française, mais. Ça serait bien l'occasion d'y retourner, surtout si on peut avoir des prix vraiment pas chers 10 minutes avant le spectacle.
Et le fait de le regarder en DVD, d'aller à la boutique et d'acheter la pièce ?
C'est vrai qu'on n'achète plus beaucoup, enfin en tout cas moi personnellement j'achète plus beaucoup de DVD, donc on n'y pense pas souvent, mais c'est pas une mauvaise idée finalement, je trouve. C'est une habitude qu'il faudrait reprendre, je pense.
Jeanne ?
Je voulais juste rebondir sur la chronique de Chloé, parce que la Comédie française, jusqu'à il y a très récemment, elle était dirigée par Éric Ruff pendant 10 ans, qui est un grand metteur en scène, scénographe, qui est parti, là, qui fait autre chose maintenant, et qui, en partant dans les médias, donc il a donné plein d'interviews pour expliquer pourquoi il partait, tout ça, et il avait des très belles phrases sur la culture et l'importance de la culture, parce que ce qu'il disait, c'était que le grand problème de la culture et pourquoi on lui tape autant dessus, c'est parce qu'elle n'est pas mesurable. On ne peut pas quantifier son effet sur les gens, on ne peut pas le mesurer. On sait qu'elle a un effet positif parce que c'est globalement ce qu'on raconte, mais ça ne se mesure pas. Et à partir du moment où ça ne se mesure pas, ça ne peut pas être protégé. Et par rapport à des mesures de santé ou des choses comme ça. Et je trouve ça hyper intéressant de mettre le doigt là-dessus et de dire que c'est d'autant plus important de la protéger parce qu'on ne sait pas pourquoi ça nous fait du bien et on ne sait pas dans quelle mesure ça nous fait du bien. Voilà, c'est tout.
Qu'est-ce que tu penses de ce que Jeanne vient de dire ?
Bah oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Et je pense que c'est... Enfin, là, par exemple, typiquement, aller voir cette pièce avec cet ami qui n'est pas particulièrement fan de théâtre, en fait, il est ressorti de là hyper content, réjoui, et je pense qu'il va y retourner. Et on a passé une excellente après-midi. Et en fait, je vois bien que ça nous a fait du bien. Mais c'est vrai que je vois... Enfin... Je ne vois pas comment, enfin, ils ne peuvent pas mesurer à quel point ça nous a fait du bien, à part qu'on avait le smile et qu'on a tapé des mains et que tout le monde a tapé des mains et c'était super. Mais oui, je vois ce que tu dis.
Diane, par rapport à ce que Jeanne a apporté sur la table ?
Bah, je suis vraiment d'accord, et en plus, moi j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que j'ai grandi avec énormément de culture autour de moi. Ma mère, elle nous a beaucoup emmené dans des musées, aller au théâtre, etc. À chaque fois qu'on pouvait le faire, on faisait des week-ends à Paris pour aller voir des pièces de théâtre et tout. Et j'ai réalisé à quel point ça avait été un vrai moteur et qu'aujourd'hui aussi, je l'ai gardé, alors pas d'avoir de pièces tous les jours, mais de garder cette soif de culture et cette soif de découverte. Et à quel point, en fait, c'est pas mesurable concrètement. Genre, je peux pas dire j'ai fait tant de trucs, donc ça a eu un impact dans ma vie. Mais c'est tellement précieux pour moi maintenant que c'est aussi un moyen d'aller un peu mieux, de retrouver un peu de la bonne humeur. Tu vois, tu disais, on a tapé dans les mains, etc. Bah, en fait, à la fin, tu te dis, ah bah, je vais peut-être mieux, je sais pas, j'étais triste avant, je sais pas. Et je trouve que ça, la culture, c'est aussi un moyen de reconnexion à soi qu'on oublie souvent, quoi.
Merci Chloé qui nous a proposé de découvrir ou de redécouvrir Le Bourgeois Gentilhomme, la pièce écrite par Molière, une pièce de théâtre disponible en DVD. Il faut juste aller à la boutique de la Comédie Française, de la Place Colette, dans le premier arrondissement.
Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Et si l'architecture n'était pas qu'une expérience d'extérieur? Et si elle pouvait aussi se vivre virtuellement? À mon tour de vous emmener dans une chronique qui redéfinit ce que peut être une cathédrale sans vraiment exister. Cap sur la version ultra-virtuelle de Notre-Dame de Paris. Cette très grande cathédrale, véritable monument historique connu du monde entier, comme nous le savons, a pris feu en 2019. Ce drame touche à ce moment le pays et le monde entier, étrangement. Et pour pallier l'absence de ce monument, de curieuses associations artistiques naissent pour continuer de lui donner vie. Le studio français Ubisoft, concepteur et distributeur de jeux vidéo, s'empare de l'occasion pour donner une autre dimension à la cathédrale. Il propose une reconstruction virtuelle de celle-ci via son très connu jeu Assassin's Creed Unity. Et ce n'est pas une reconstruction comme les autres, c'est de la réalité virtuelle praticable à 360 degrés. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que cette expérience-là, du 360, est disponible à la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, dans le 13e arrondissement. Au niveau de la section audiovisuelle. Et je l'ai essayé pour vous, alors je vous raconte. La modélisation plonge le spectateur dans les différentes pièces de la cathédrale, permettant d'accéder à des points de vue inhabituels. Immenses voûtes, pierres apparentes, vitraux, couloirs d'antan, tout y passe, le tout plongé dans une ambiance d'ancien temps. Sur fond de cette musique, les lieux se succèdent. On y croise des habitants parisiens de l'époque, des chevaux attelés aux calèches. On se place dans le ciel, juste au-dessus des tours mythiques, pour une sensation de vide plutôt plaisante. On rencontre aussi une servante qui marche dans les couloirs. Alors même si elle reste courte, moins de 10 minutes, l'expérience est différenciante. Mais surtout, elle questionne. Utiliser la VR pour permettre la visite de bâtiments historiques semble être un moyen de leur donner vie tout court. Cette immersion enclenche un nouveau regard sur ces murs qui ont traversé les siècles et finalement, elle nous concerne puisqu'utilise nos codes actuels. Une question que je me suis posée et que je me pose toujours quand j'ai vécu cette expérience, c'est mais faut-il forcément recontextualiser dans son époque un bâtiment pour qu'il nous touche, pour qu'on y prête attention? Avons-nous besoin de raconter des histoires pour donner de la valeur aux monuments qui nous entourent? De mon côté, je déplore le besoin de réalité virtuelle pour y parvenir, mais salue à la fois son efficacité et son art pour attirer un plus grand public. Si vous souhaitez tenter l'expérience, rendez-vous à la BNF. Bon, certes, il faut un abonnement pour y accéder, mais il est ultra abordable et il vous ouvrira surtout les portes d'une bibliothèque mythique dans laquelle il y a régulièrement des expositions, des ouvrages mis en avant. Alors rien que pour ça, courez-y. Allez, passons aux réactions de la réalité virtuelle pour faire de l'architecture, enfin pour visiter. On en pense quoi, Jeanne?
Moi, je suis un peu réac là-dessus. Mais...
J'en étais sûre,
évidemment. Mais il n'y a pas très longtemps, je suis allée visiter les châteaux de la Loire. Et maintenant, dans tous les châteaux, il y a des tablettes qu'on nous donne à l'entrée, qu'il faut viser les murs avec pour voir comment c'était avant et tout. Mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que tous les gamins, ils sont scotchés sur les tablettes et ça marche pas et ça fait du bruit et ça s'éteint et il faut les recharger et tout. Enfin, les gamins, mais en fait, tout le monde, même les vieux. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est des endroits qui portent une petite aura quand même. Quelque part, quand on rentre dans des ruines de château, il se passe quelque chose. Et là, il se passe plus rien. On est juste scotché sur un écran comme ce qu'on fait tout le reste du temps. Comme je disais, c'est un peu réac, mais je trouve qu'il peut y avoir d'autres façons de raconter un lieu,
de faire perdurer
les histoires sans nous mettre un écran, encore une fois, sous les yeux avec ce truc de VR et tout ça.
On en pense quoi, Chloé ?
Bah oui, je me dis qu'on pourrait imaginer d'autres manières de faire, peut-être des compteurs ou des événements en costume ou je sais pas, des choses qui peut-être. Mais après, je pense que je suis un tout petit peu moins contre que toi.
Non mais je caricature, mais voilà.
Parce que c'est vrai que là, ce que t'as raconté, ça donnait extrêmement envie.
Pas du tout envie.
Si, je trouve que ça donnait envie. Non,
la version de Jeanne, pardon. Non, pour moi, ça donnait pas du tout envie.
Mais par contre, ce que toi t'as raconté, ça donnait assez envie. Et avec la musique, enfin, je pense qu'il y a aussi des manières de nous immerger, peut-être pas avec l'objet tablette, qui, t'as raison, mais ça pourrait être réfléchi d'autres manières et la verre peut être une manière de donner envie quand même, je pense.
Isnel, toi, t'en penses quoi ?
Oui, aussi. J'étais pas aussi contre, mais c'est vrai que quand t'as raconté comment ça se passait après en temps réel, je me suis dit, ah oui, effectivement, forcément qu'il va y avoir des bugs, forcément qu'il va y avoir des trucs qui vont pas marcher. Mais je me suis rappelé que des fois, au musée, des fois, on avait des moments où il y avait des sortes d'écrans où on nous montrait à quoi ressemblaient les bâtiments avant. Et je me dis que ça pourrait être bien, peut-être, plutôt de mettre une salle, je sais pas comment ça peut marcher, mais plutôt mettre une salle où on montrait à quoi ressemblaient les bâtiments avant et quand même laisser la place au musée de juste se raconter tel qu'il est ou le monument, plutôt comme ça. Je me dis que ce serait mieux plutôt qu'on soit tous sur nos tablettes. Déjà qu'on a, si on a envie de comprendre, par exemple, un guide ou un truc comme ça, donc il y a déjà pas mal de choses.
Diane.
Non mais je suis très d'accord. Moi je viens des châteaux de la Loire, je viens de Tours. Donc non bah c'est pas moi qui gère les châteaux. Hein. Non mais je suis bien d'accord. Et il y a quelques jours j'étais en vacances à Périgueux chez une amie et pendant qu'elle travaillait un jour donc je suis allée me balader dans la ville et il y a une cathédrale et il y a un truc un peu fou c'est que je suis rentrée dans la cathédrale pour être au frais etc et puis l'orgue s'est mis à jouer. Et en fait, là, je me suis vraiment sentie dedans. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont possibles en termes de tourisme et de création pour la partie patrimoine, etc., qui permettent d'avoir une immersion sans que ce soit directement via les tablettes. Moi, j'avais fait un château, je m'étais fait une journée au château de Vincennes et j'avais commencé à prendre la tablette. Puis en fait, j'avais fait genre 2 minutes et j'étais en mode... En fait, ça va me saouler d'avoir un truc qui est en plus grand que genre, les affaires que j'ai prises et tout. Je suis allée le rendre, j'ai dit, bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'utiliser, je vais aller me balader, ça va être très bien. Et je trouve que tu peux t'immerger et tu peux comprendre aussi un lieu sans avoir tout un attirail qui est hyper complexe aussi pour les visiteurs, quoi.
Cette question est quand même intéressante parce qu'elle souligne le besoin d'immersion pour pouvoir être sensible à une forme d'art. On peut quand même souligner le bienfait de la VR d'avoir accès à un lieu sans y être vraiment physiquement. Et ça, c'est quelque chose aussi à ne pas oublier. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour rappel, on vient de parler donc de la version virtuelle à 360 degrés de Notre-Dame, disponible à la BNF dans le 13e arrondissement jusqu'à février prochain. Si ça vous intrigue, allez-y. Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieux et curieux, comme d'habitude, on continue d'explorer, de découvrir de nouvelles œuvres et personnalités.
Place aux arts visuels, aux jeux vidéo et à la bande dessinée. À tout de suite.